Bonjour à tout le monde. Nous savons, en tant qu'appelés, que ceux que Dieu attire à son Fils pour changer de vie, pour se préparer aux grandes choses qui viennent et tout ça, doivent continuellement s'approcher de Dieu. Continuellement s'approcher de Dieu. Continuellement rester proche de Dieu. Et en cela, on a un exemple extraordinaire. Pas n'importe lequel. L'exemple du Christ lui-même. Le Christ lui-même a toujours resté proche de son Père. A toujours été dans une position où il s'est placé pour faire sa volonté, pour chercher à faire sa volonté, pour demander son aide, pour marcher vraiment avec lui. Et en cela, il est notre exemple parfait. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui l'ont fait dans la Bible. Mais le Christ, lui, l'a fait parfaitement tout au long de sa vie, même dans des circonstances extrêmement difficiles. Allez à Jean 14, s'il vous plaît. Jean, chapitre 14. L'Évangile de Jean, chapitre 14. Voyez-vous, le Christ savait qu'il ne pouvait pas compter sur aucun être humain. Il ne pouvait pas compter sur les hommes. En tant qu'homme, par contre, lui-même ne pouvait même pas compter sur lui-même. Peut-être que ça vous surprend que je fasse cette déclaration-là, mais je vais l'appuyer par la Bible. Parce que le Christ, venu dans la chair humaine, ne pouvait pas compter sur lui-même. Il devait compter sur Dieu. Il ne pouvait compter que sur Dieu seul. Et dans ça, il est notre exemple. Si lui devait agir comme ça, à combien plus forte raison moi, qui suis un être humain extrêmement limité, dois-je aussi faire la même chose, compter sur Dieu de plus en plus, apprendre à compter sur Dieu, parce que ça se développe aussi. On ne l'obtient pas d'un coup sec. On développe de s'approcher de Dieu. On développe de lui plaire. Plus on le fait, plus il nous donne sa force. Plus on peut avancer. Et plus on veut le faire encore. Alors, Jean 14, verset 10. C'est le contexte où Philippe demande au Christ de leur montrer le Père. Puis Christ dit, écoutez, vous m'avez vu, vous avez vu le Père. On est un, on est pareil, un comme l'autre aussi. Alors, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » L'unité. « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Regardez bien. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, c'est par la puissance de Dieu. L'être suprême sur lequel il comptait. Il était son Fils, mais il était dans la chair. Et il devait compter entièrement sur son Père. C'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Et dans ça, il nous trace la voie, pour ainsi dire. Pour que nous, on réalise qu'on doit faire la même chose. Allez à Psaume 73. Psaume chapitre 73. Et nous allons lire le verset 27. Commençons par le verset 27. « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » Et c'est en même temps une mise en garde pour nous qui sommes appelés. Parce que si on s'éloigne de Dieu, on est en danger. On est en danger parce qu'on est de moins en moins sous son aide directe et de moins en moins sous sa protection. Et on sait que si on s'éloigne de lui, dans la même proportion, on va cesser de comprendre les choses spirituelles. Ça aura de moins en moins d'importance à nos yeux et on va devenir de plus en plus, exposé à être victime de Satan qui veut nous détourner totalement des voies de Dieu, et il veut nous détruire. Alors, regardez, il dit, « Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. » C'est pour ça qu'il nous faut travailler à être fidèles à Dieu. On n'est pas parfait, mais avec son aide, continuer, nous battre, et si on manque notre coup une fois, de demander pardon, de se relever aussitôt, de continuer. Verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Regardez ce qu'il dit. « Pour moi, là, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » On pourrait dire, c'est mon bien le plus précieux. C'est le but de ma vie. Après que Dieu s'est révélé à moi, après qu'il m'a montré le but de l'existence humaine et le rôle qu'il veut que je joue là-dedans. moi qui n'avais aucun but réel à l'existence, sinon de faibles buts à court terme avant de connaître le vrai Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Et il répond à celui qui s'applique à être de plus en plus fidèle. Voyez-vous, on s'approche maintenant de les fêtes du printemps, des fêtes du printemps. Dans quelque temps, le cycle des fêtes de Dieu va recommencer. La Pâque, les pains sans levain. Alors, c'est d'autant plus important de prendre conscience de ces choses-là qu'il nous faut être vraiment proche de Dieu. Et de se poser des questions. Est-ce que je suis proche de Dieu comme je devrais être proche de Dieu? Il y a toujours place à l'amélioration. Moi, le premier. Tous les membres de l'Église, tous les ministres de l'Église, on doit se poser la même question. Parce qu'on est également exposé au monde environnant, on est exposé à l'usure du temps. Et même parfois, quand on connaît les choses depuis longtemps, on peut les prendre pour acquises, mais il ne faut pas, il faut travailler à être proche de Dieu et à vraiment marcher avec lui. Est-ce que je connais le vrai Dieu davantage cette année, par exemple, que l'an passé? Est-ce que j'ai fait du chemin? Est-ce que je suis en train d'en faire encore? C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que je compte plus sur Dieu que je comptais? Vous savez, est-ce que je suis capable même de m'en remettre à lui maintenant dans plus de circonstances qu'avant? Ça s'apprend, ça aussi. Parfois, il nous survient des difficultés d'une certaine ampleur, puis là, on s'en remet à Dieu. Mais quand il y a des difficultés d'une ampleur encore plus grande ou plus grande ou plus grande, est-ce que je suis capable, dans ces grandes circonstances de grandes difficultés, de m'en remettre également au Dieu Tout-Puissant pour qu'il prenne soin de moi? Sur qui je compte à ce moment-là? Est-ce que je fais comme le Christ, que je compte sur mon Père, comme lui comptait? Ou si à ce moment-là, je m'inquiète et que je me tourne vers d'autres solutions ou que je me tourne vers moi-même? Est-ce que je suis capable de m'en remettre à Dieu en toutes circonstances? Est-ce que je suis capable de m'en remettre à Dieu en temps de crise, crise mineure ou crise majeure? Est-ce que je suis capable de me tourner vers Dieu même quand je me sens seul? Parce que ça arrive à tout le monde, aux chrétiens aussi, de se sentir seul dans toutes sortes de circonstances. Quand je me sens seul face à des situations, face à des difficultés, est-ce que je suis capable d'automatiquement me tourner vers Dieu? Et même si les choses ne se déroulent pas exactement comme je désirerais ou à la vitesse que je désirerais, être capable de mettre ma confiance en lui et d'attendre. C'est ça la persévérance dont la Bible parle aussi. Remettre nos difficultés dans les mains de Dieu, continuer à faire ce qu'on a à faire, et attendre que Dieu intervienne, parce qu'il va intervenir. C'est l'engagement qu'il a pris. Certains se sentent parfois loin de Dieu, et c'est le cas de tout le monde quand on est séparé de Dieu, avant qu'on connaisse Dieu. On est loin de Dieu, vrai Dieu, même si on pense connaître Dieu. Et au début de notre conversion, c'est la même chose. C'est un phénomène qui doit aller en grandissant. On ne connaît pas vraiment le vrai Dieu. C'est un processus qui s'établit. Ça grandit. On grandit dans la grâce, on grandit dans la connaissance. Mais certains, parfois, se sentent loin de Dieu, ou certains se sentent en train de s'éloigner de Dieu. Mais là, il faut se prendre en main tout de suite, parce qu'on reste libre. Dieu nous a créés libres. Et il faut prendre les mesures, les dispositions pour tout de suite se rapprocher de Dieu, puis marcher avec lui, pour être capable d'être sous son aile, avoir sa force, avoir son aide, voir les choses comme lui les voit, être capable de faire ce qu'on doit faire. Alors, on va regarder aujourd'hui quelques façons de s'approcher de Dieu pour être encouragé puis pour savoir quoi faire. D'où le titre de mon message, « S'approcher de Dieu ». On va voir comment le faire, parce que les Écritures plaident beaucoup pour ça, pour qu'on le fasse. À un moment donné, c'est écrit, je le dis dans mes mots, là, « Approchez-vous de Dieu pendant que Dieu est prêt, pendant que Dieu est proche ». Un autre passage des Écritures dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Donc, ça implique l'inverse, un peu comme je vous disais tantôt. Si j'ai commencé par faiblesse ou quoi que ce soit à m'éloigner de lui, il faut que je me dépêche de revenir. Parce que si je m'éloigne de lui, lui aussi s'éloigne de moi. Et ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je laisse passer de temps, il faut que je me tourne vers lui. Et s'il faut jeûner plus souvent, pour revenir vers Dieu, pour être proche de lui, marcher avec lui. Allez dans Ésaïe 55. Ésaïe chapitre 55, et on va lire à partir du verset 6. chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et pour une certaine période de temps encore, il est encore possible de trouver l'Éternel. Mais à un moment donné, on sait par les Écritures que l'annonce de l'Évangile va prendre fin, que le travail de l'Église sera terminé, et qu'à ce moment-là, les gens ne pourront plus trouver l'Éternel, parce qu'il ne se trouvera plus. La ligne aura été tracée. Ce qui aura à avoir été fait, aura été fait. Il cherchait l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et maintenant, il ne s'agit pas juste de l'invoquer, de lui parler, mais lui parler dans une attitude particulière. Et cette attitude-là, elle est décrite tout de suite après. Tout de suite après, au verset 7. Que le méchant abandonne sa voie. Ça, c'est moi. Ça, c'est vous. Parce qu'on vient, pour ainsi dire, du pays de la méchanceté. On vient du pays des transgressions des lois de Dieu. On ne le connaissait pas, le vrai Dieu, avant. Et notre nature humaine est encore là. Et parfois, ça nous tire dans cette direction-là. Alors, nous, il nous faut continuer à nous purifier. Il dit que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Et on doit continuer dans la purification qu'on a commencée depuis le moment de notre appel. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Dieu va réagir, Dieu va répondre. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est tellement encourageant quand on lit comment Dieu travaille, comment il est bon, comment il est patient. Mais on ne doit pas jouer de jeu avec lui, par contre. Dieu est patient, c'est vrai. Dieu est prêt à pardonner, c'est vrai. Mais il faut que j'aie une attitude vraiment de repentir et que je marche dans cette direction-là. Après ça, il exprime une idée sur lui-même en montrant à quel point il est grand par rapport à nous. Il dit, verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Autrement dit, moi, je suis ici sur la terre, je suis poussière, devenue vivante par la bénédiction de Dieu. Mais Dieu a toujours été Dieu, il a toujours existé, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. Et moi, je suis rien. Mais il a appelé un rien pour en faire quelque chose, pour en faire un enfant dans sa famille. Et c'est la même chose pour chacun et chacune d'entre vous. Et il n'y a rien de plus important que de s'approcher de Dieu, que de développer, je le dis en d'autres termes, s'approcher de Dieu, c'est de développer une relation de plus en plus puissante, de plus en plus forte et de plus en plus intime avec Dieu. Marcher avec lui, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a rien de plus important. Et regardez psaume 84. Versets 2 et 3. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Une fois qu'on trouve le vrai Dieu, qu'on réalise la grandeur de son amour, de sa miséricorde, ce qui nous attend si on est fidèle et tout ça, c'est ce qu'on dit à Dieu. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers Dieu, parce que c'est lui maintenant qui est l'être principal de notre vie. Devant mon épouse, devant mes parents, devant mes enfants, devant ma carrière, devant quoi que ce soit, Dieu devient le premier. Et j'en arrive à pouvoir dire ces choses-là, mais de tout cœur. C'est toi qui es le premier dans ma vie, mon Dieu, donne-moi de faire ta volonté. On devient conscient de l'état du monde aussi en même temps. Parce que Dieu révèle où ces choses-là s'en vont. On devient conscient de notre petitesse et en même temps de la puissance de Dieu. Et on est prêt à ce moment-là à s'investir pour justement développer cette relation de plus en plus intime avec le gouverneur de l'univers. Notre cœur se détourne des voies du monde où on était avant, où on est encore à certains égards attaché, et notre cœur se tourne de plus en plus à mesure qu'on avance dans la voie chrétienne vers Dieu, vers ses voies, vers ses façons de penser, ses façons de faire, pour accomplir son œuvre aussi, pour soutenir son œuvre, pour que l'humanité soit libérée. Gardez le verset 4 à 6. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Et c'est tellement beau le printemps quand on voit les oiseaux faire leur nid, quand on voit ces choses-là se produire. Les parents de ces petits oiseaux-là en prennent soin. Dieu se compare un peu à ça en disant, écoutez, moi je prends soin de vous, là. Il y a ma maison, il y a mes hôtels où vous pouvez venir, et c'est chez vous. Le passereau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, Éternel des armées, mon Dieu, mon roi, heureux ceux qui habitent dans ta maison, dans ton Église, qui sont parmi le peuple de Dieu. Et vous allez partir d'ici, Vous allez aller voir des frères en Martinique. Vous allez aller à une assemblée de sabbat en Haïti ou en France. Et qu'est-ce qui va se passer? Même si c'est des gens que vous n'avez jamais rencontrés personnellement, vous allez vous sentir chez vous. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit de famille. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur pays, et c'est ce qui se produit quand on a la chance d'aller dans ces régions-là et d'aller voir ces frères-là. Heureux ceux qui habitent dans ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Heureux, regardez bien, ceux qui placent en toi leur appui. C'est en Dieu seul que je peux mettre mon appui quand j'ai des problèmes. Et que je dois mettre mon appui quand j'ai une situation qui est calme. Parce que je dois mettre en lui mon appui pour les temps difficiles à venir plus tard. Et quand ça va bien, je dois le remercier que ça va bien et me fortifier pour me préparer aux choses plus difficiles qui viennent. Heureux, celui qui place en toi, ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Pourquoi? Parce qu'ils savent quoi faire. Comme le Christ savait quoi faire, parce qu'il était proche de son Père. On va regarder maintenant un premier point. Comment nous approcher de Dieu ou comment développer cette relation-là étroite avec Dieu sans laquelle on ne pourra pas arriver au royaume. On a absolument besoin. C'est qu'il faut d'abord réaliser ce besoin-là. Réaliser le besoin de s'approcher de Dieu. Puis faire les efforts qu'on a à faire, ça ne vient pas tout seul. C'est pas simplement parce que je le sais que ça arrive. Absolument pas. Il faut que je fasse des choses. J'ai des choses à faire. Il faut travailler, comme la Bible dit, à notre salut, avec crainte et tremblement. Il y a des efforts à faire, il y a une persévérance à amener. Lorsque Dieu nous appelle, il nous révèle ses voies, il nous révèle son plan, il nous révèle ses fêtes. Et là, on se repent, on regrette d'avoir transgressé les lois, on commence à changer, on demande son aide pour être capable de le faire, d'être capable d'aller plus loin, et on change. Et on apprécie ce que Dieu nous donne, et on commence à vouloir lui obéir à un moment donné, non pas pour éviter la punition. On va plus loin. Non pas pour éviter le châtiment de la mort éternelle, mais pour plaire à un Père qu'on apprend à aimer. Obéir par amour pour notre Père. Voyez-vous l'autre dimension des choses, là? Il y a deux façons d'obéir. On peut obéir par peur ou on peut obéir par amour. Et Dieu veut qu'on arrive à ce stade de lui obéir par affection, par respect, par admiration. Pour un Dieu merveilleux qui nous a tout donné. Comme le sabbat, par exemple. Il nous l'a donné, le sabbat. C'est un cadeau merveilleux, extraordinaire, qui nous rapproche de lui chaque semaine. C'est un temps mis à part où on peut être plus proche de lui, où on peut étudier davantage, où on peut réfléchir davantage, se reposer, nous débarrasser de nos soucis de la semaine, attendre au lendemain avant de reprendre nos activités puis nos inquiétudes, puis s'en remettre à lui. C'est un grand cadeau. Comme chaque commandement, comme chaque fête qu'il nous a donné est un merveilleux cadeau. Et ceux qui en arrivent graduellement à faire ça, à vouloir obéir à Dieu par affection, puis à mettre leur appui en lui, en arrivent à avoir un état d'esprit qui les aide encore plus. C'est une roue qui tourne, ça. Regardez psaume 139. On était dans les psaumes. Allons un peu plus loin. Psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139, vers la fin du livre des psaumes. Psaume 139, on va commencer à lire dès le début du psaume. Verset 1. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Là, plus on connaît Dieu, plus on se rend compte comment il agit envers nous. Plus on s'approche de lui, plus il s'approche de nous, plus il se révèle à nous. Et plus on sait qui il est, et plus on sait comment il agit. Et ici, David décrit comment Dieu agit envers lui, son serviteur. Et c'est la même chose envers vous, personnellement. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Le gouverneur de l'univers prend la peine de vous connaître en détail, de connaître et d'évaluer toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez, de voir vos besoins et d'y répondre en son temps, à sa façon. Puis à travers tout ça, il est en train de vous préparer. Mais il veut que vous développiez à travers tout ça une confiance absolue en lui. Éternel, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Voyez-vous? On parlait tantôt que parfois on est seul. Mais dans le fond, c'est une impression humaine. Parce qu'on n'est jamais seul quand Dieu nous a appelés. On n'est jamais seul. Il se préoccupe de nous dans les moindres détails. Quand vous vous couchez, quand vous vous levez. Tu pénètres de loin ma pensée. Avant que je puisse former clairement dans mon esprit la pensée que je veux lui exprimer, il dit, il la connaît déjà. Il la connaît déjà. Un peu comme un petit enfant, des fois, il n'aura pas encore demandé s'il parle quelque chose. On sait ce qu'il veut par ses gestes, par vers où il s'en va ou comment il s'exprime ou comment il s'approche de nous, qu'est-ce qu'il veut avoir. On le sait en tant que parent. Dieu dit, je suis pareil. Je vous connais, puis surtout, je vous regarde, je vous observe. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. C'est formidable. Ça, c'est le Dieu qu'on apprend à servir par amour, auquel on apprend à obéir par amour. Et ça nous fait réaliser que Dieu s'implique totalement dans cette relation-là. C'est à ça que je veux vous emmener. David a réalisé que dans sa relation avec Dieu, il était heureux de ça. Mais il se rendait compte que le Dieu Tout-Puissant lui-même s'impliquait personnellement en détail dans sa relation avec David. Et c'est la même chose pour chacun de ceux et celles que Dieu appelle maintenant. C'est pas rien, là. C'est quelque chose. S'il y avait un roi de la terre ou un grand président qui s'occuperait de vous personnellement, ça vous impressionnerait, mais c'est rien à côté du Dieu qui a donné la vie à tous les êtres humains et même à ces grands rois-là. Lui s'occupe de vous personnellement. Il a prononcé votre nom dans la salle de son trône pour vous appeler et il vous a promis de vous amener à terme si vous faites la démarche qu'il vous demande de faire avec son aide. Parce qu'il dit, seul, vous n'êtes pas capable. Mais avec mon aide, vous allez y arriver. Et regardez le verset 5. Dieu va plus loin. David l'a compris. Puis nous autres aussi, on doit le voir. Il dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Des fois, moi, j'appelle ça être porté sur des ailes d'aigle ou être sous les ailes du Dieu puissant, si vous voulez, du grand aigle, comme parfois il donne description. Et c'est tellement rassurant de voir comment Dieu agit par rapport à ceux qu'il appelle et qu'il veut voir devenir ses enfants dans sa famille, qu'il veut voir un jour naître en tant qu'être divin dans la famille de Dieu, de devenir des dieux eux aussi, comme le Christ, le premier-né de la famille. Dieu sait, Dieu sait. 13 et 14, allons un peu plus loin. David décrit quelque chose de fantastique ici. David dit, « C'est toi qui as formé mes reins. » Il parle maintenant de son corps, à lui, David, « qui m'a tissé dans le sein de ma mère. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Il était émerveillé devant la constitution de son corps physique. Et c'est vrai, c'est un miracle. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, et ainsi de suite. Et il continue. Voyez-vous, écoutez, vous prenez simplement une petite blessure que vous avez, une coupure. Qu'est-ce qui se produit dans votre corps? C'est qu'à un moment donné, il y a une série de globules, il y a de molécules qui se déplacent pour aller former une gale, pour aller guérir. Est-ce que vous vous êtes arrêté pour y penser, pour donner un commandement à ces globules-là, à ces particules de votre être d'aller guérir ça? Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ait programmé cette machine merveilleuse, comme David dit, à fonctionner comme elle fonctionne pendant nombre d'années et pour produire des phénomènes comme ceux-là? Seul un Dieu tout-puissant est capable de faire ça. C'est pour ça que David disait, je réalise, Dieu, que mon corps est une création merveilleuse. Et ça loue la grandeur de Dieu de le voir de cette façon-là. Notre corps, dans le fond, c'est la preuve de l'existence de Dieu. Il vit indépendamment de ce qu'il y a autour, sans circuit électrique branché. Il y a un circuit électrique qui travaille tout au long de la vie, qui fait battre le cœur, ainsi de suite, qui fait fonctionner les poumons et tout. C'est, en guillemets, autonome, mais ça a été créé comme ça, avec la puissance que ça a pour la durée de vie que Dieu a accordée pour l'instant aux êtres humains. Personne ne peut reproduire ça. Personne, absolument, ne peut reproduire ça. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça. J'ai noté ça dans mes notes. Puis après que j'ai écrit ça, je dis, ouais, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ayant un corps physique comme vous avez, même chose que pour David, c'est que vous habitez dans un miracle. Vous habitez dans un miracle constant et permanent qui est en opération, qui ne dépend pas de votre volonté. Vous n'avez pas à décider, par exemple, de digérer les aliments que vous avez mangés. Votre corps le fait comme automatiquement parce qu'il a été programmé pour faire ça. Et on pourrait prendre plein de fonctions corporelles comme ça et on verrait la grandeur puis la majesté de Dieu. Et tout ça, votre corps, est parti de la rencontre de deux cellules. Hein? Un spermatozoïde puis une ovule. Et après ça, ça s'est multiplié par deux, encore par deux, quatre, 8, 16, 32, tout au long de la grossesse de 9 mois. Et ces deux cellules-là, initiales, avaient à l'intérieur d'elles-mêmes tout le code dont elles avaient besoin pour bâtir un être humain, sans qu'aucun autre être humain qui se pense intelligent puisse faire quoi que ce soit pour les faire arriver comme ça. Et les mêmes deux cellules initiales sont capables de se multiplier comme ça, dans un nombre phénoménal de fois, et d'arriver dans la construction du corps humain à se diversifier et à former, par exemple, l'œil, qui est différent de l'ouïe, à former la langue avec les papilles gustatives. C'est les mêmes cellules initiales, là, mais ils se sont diversifiés pour aller dans des fonctions précises que Dieu avait prévues, établies dans le corps humain. C'est fascinant quand vous regardez les choses de cette façon-là. Personne ne peut faire ça sinon un Dieu extrêmement grand, extrêmement puissant. C'est pour ça que je vous dis, vous habitez un miracle. Votre esprit humain habite un miracle. Dieu vous a entouré d'un miracle qui est pourtant éphémère, comme les fleurs. Comme les fleurs. Quand Dieu a voulu montrer sa grandeur, à un moment donné, il a comparé Salomon avec les lys des champs. Il dit, bon, vous voyez, Salomon était riche, il paraissait bien tout ça, mais il dit, c'est rien à côté des lys des champs que j'habille de façon extraordinaire, pas un pareil, et qui sont là juste pour quelques heures pour la beauté des êtres humains. Puis j'en fais venir d'autres, et ainsi de suite. C'est la puissance de Dieu encore. Seuls les insensés disent qu'il n'y a pas de Dieu. Seuls les insensés disent qu'il n'y a pas de Dieu. Allez à Romains 1, s'il vous plaît, Romains chapitre 1. Quand on se met à regarder ces choses-là de plus proche, on admire le grand Dieu qui nous a donné la vie. Et on veut s'approcher de lui. On veut avoir sa force pour faire les choses comme il veut. Et ça nous aide, ça, à vouloir lui obéir par affection, par admiration. Romains 1, versets 19 et 20. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Comment ils font ça, retenir la vérité captive? Ils essaient d'inventer toutes sortes de théories pour montrer que l'homme est le fruit d'une évolution quelconque, partir de rien ou à peu près, ou une soupe cosmique dont on ignore l'origine, tout ce que vous voulez. Ils disent, ils retiennent la vérité captive, ils inventent toutes sortes de théories pour cacher la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le ayant fait connaître, verset 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Simplement, dans le petit bout de la petite description que je vous ai donnée du corps humain, on peut voir la majesté d'un Créateur tout-puissant. Alors, c'est pour ça que Dieu dit, ils sont inexcusables. C'est là, devant leurs yeux. C'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas l'admettre, ils cherchent ailleurs que du côté de Dieu. Non, nous, il faut garder Dieu non seulement dans notre mémoire, mais dans notre conscient pour vivre continuellement et s'approcher continuellement de lui chaque jour, comme le Christ a fait, notre modèle. Deuxièmement, réaliser, on l'a entrevu un petit peu, deuxièmement, réaliser que Dieu se soucie de vous. On l'a entrevu tantôt. Dieu se soucie de vous. Jean 5, verset 19. Jean, chapitre 5. Et le verset 19. C'est le Christ qui parle. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous avez bien lu. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Regardez comment c'est beau. Voyez-vous? Ils sont un, il y a une unité là, Père-Fils. Et il dit, le Fils fait la même chose que le Père fait, ce qu'il voit chez son Père. Il est conscient de ça, il le dit ici. Il dit, je suis conscient que je fais ce que mon Père fait, il le fait à travers moi. Et le Père lui montre quoi faire, comme nous, on doit montrer à nos enfants quoi faire. On leur montre le chemin. Et c'est pour ça que Dieu a dit, en parlant de son Fils, « Voici mon bien-aimé, son Fils bien-aimé. » Pourquoi? Parce qu'il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Il marchait avec lui. Il s'approchait de Dieu constamment. Il était constamment proche de lui. Allez à 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Une expression d'affection. Et nous, on doit en arriver à avoir des expressions d'affection envers notre Père quand on lui parle aussi, ou quand on parle de lui, parce que lui nous a aimés le premier. Et il a tellement d'affection envers nous, on l'a vu tantôt. 1 Jean 4, versets 9 et 10. 1 Jean 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ça, c'est au moment où on était encore des pécheurs, nous qui avons causé la mort du Christ. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. C'est lui qui nous a d'abord aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors, voyez-vous, ici, il nous montre que lui s'est soucié de nous le premier. Mais là-dedans, il y a une leçon pour nous, qu'on doit faire la même chose. Que nous, on doit se soucier, un, de lui, de l'apprécier, de le remercier, notre Sauveur, mais qu'on doit se soucier des autres. Et c'est pour ça que Dieu appelle un petit troupeau maintenant pour qu'on annonce l'Évangile, qu'on annonce le merveilleux monde à venir, que Dieu appelle encore un certain nombre en préparation d'une petite équipe qui va aider les gens dans le monde à venir, pour qu'on donne, nous aussi, à notre tour. Pour que les gens dans le monde à venir, quand ils auront vu les étapes qu'on aura passées, les difficultés qu'on aura eues, les moments de solitude alors qu'on s'est tourné vers Dieu, les grands combats qu'on a menés dans la persévérance, en suppliant Dieu à genoux, par des jeûnes, par des prières, les gens vont pouvoir dire aussi, ils nous ont aimés les premiers. Comme Dieu nous a aimés avant qu'on le connaisse. Nous, on aime d'avance les gens qu'on aura à servir dans le monde à venir. C'est le même phénomène, exactement la même chose. C'est de donner au suivant, là. C'est un peu la même chose. Dieu s'est soucié de nous et nous nous soucions des autres. Des autres maintenant dans le monde, parce qu'on soutient l'annonce de l'Évangile, et des autres dans le monde à venir, après qu'il y aurait eu la troisième grande guerre mondiale et qu'il y aurait eu tellement de souffrance, sur la Terre, et qu'on va pouvoir rassembler les êtres humains, les guérir, les encourager et tout ça, on les aimera. On les aimera. Et ils vont dire, ils nous ont aimés, ils ne nous connaissaient pas. Mais on va pouvoir leur dire, on ne vous connaissait pas personnellement, mais on vous connaissait de façon générale, parce que nous, on avait été aimés en premier, alors qu'on n'était pas aimables non plus. Et on vous donne la même chose qu'on a reçue, au maximum qu'on peut le faire. C'est fantastique l'histoire du plan de Dieu. C'est toujours de donner. Dieu, c'est le plus grand donateur. Et nous, on apprend à donner lorsqu'il nous appelle. Comme on donne à nos enfants, comme on donne même à des ennemis lorsqu'il le faut. Et qu'on apprécie tous les êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'on se tient avec nos ennemis. Ça, c'est une autre affaire. S'il y a des gens qui sont ennemis ou qui sont contraires à nous, on ne doit pas les fréquenter, on ne doit pas avoir de relation avec eux. Ça, c'est une autre chose. Pour protéger l'Église et pour nous protéger. Mais on les aime aussi. Et si on a à rendre service, à un moment donné, qu'il arrive une situation imprévue, on doit le faire. Absolument. C'est ce que la Bible nous montre. Alors, voyez-vous, pour s'approcher de Dieu, il faut en arriver à ce niveau de compréhension de son plan, de qui il est, comment il travaille, puis à quel point il nous aime. Et quand on le voit comme ça, là, ça nous pousse à vouloir lui obéir par amour. Troisièmement, un autre moyen de s'approcher de Dieu, c'est d'être conscient que Dieu partage. Dieu partage avec nous. Il veut partager beaucoup avec nous. Et il nous enseigne par là à partager nous aussi avec les autres. C'est un peu ce que je vous disais quand je vous mentionnais il y a quelques instants qu'on doit supporter cette œuvre par nos prières, par nos dîmes, par nos offrandes, pour que la mission de l'Église que le Christ lui a confiée avant de partir et de retourner au trône de son Père en disant « Allez par toute la terre, prêcher la bonne nouvelle, baptiser des gens de toutes les nations, préparer une petite équipe et je vais être avec vous jusqu'à la fin. » Nous, c'est notre travail de faire ça, donc de partager cette chose-là avec les autres, de la rendre disponible, faire notre travail et dans le monde à venir de servir. Jean 5 et le verset 20, l'Évangile de Jean. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, et on va lire le verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, comme on a entrevu tantôt. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez tous dans l'étonnement. Il y a quelque chose de plus grand qui s'en vient encore, qui était déjà révélé au Christ comme principe à ce moment-là. Dieu veut partager avec nous des choses extraordinaires. Et écoutez, Dieu se révèle à nous. C'est marqué dans la Bible que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à qui? À ses serviteurs, les prophètes, ou à ses ministres, ou à ceux qui servent dans le corps de Christ en tant que ministre. C'est ce que Dieu fait, c'est sa façon de procéder. Qu'est-ce qu'il fait en faisant ça? Il partage avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On l'annonce au monde, on partage avec les autres. Qu'ils le reçoivent ou non, ça c'est une autre question. Mais nous, on a fait notre travail à ce moment-là, le travail qu'on doit faire. On n'est pas dans l'ignorance par rapport à nos responsabilités puis par rapport à l'importance de ce qui nous est demandé de faire. C'est ça. C'est pas comme j'ai déjà vu à un moment donné un chef d'entreprise en Allemagne, sa fille, c'est sa propre fille, ne savait pas ce que son père produisait dans son usine. Ça, c'est dommage, parce qu'écoutez, ces pères-filles, là, dans une famille, on échange, on est proche l'un de l'autre. Il ne s'était pas approché de sa fille pour être quelqu'un de réel auprès d'elle, puis lui apprendre des choses, et ainsi de suite, la mettre dans le coup, pour ainsi dire, dans ce sens-là. Non, Dieu partage avec nous. Et Dieu partage ses pensées avec nous, comment? Par la Bible. C'est pour ça qu'on étudie chaque jour sa parole, pour ingérer sa culture, sa façon de voir, sa façon de penser. Et il nous donne les informations par la prédication qu'on reçoit. Le Christ partage avec nous, puis nous donne un rôle à jouer dans son corps, qui est l'Église. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Commençons au verset 6. On va voir ce que Dieu veut partager avec nous. Verset 6, il parle de l'être humain ici, mais en même temps, il parle du Christ en tant qu'être humain aussi, les deux. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Ou commençons au verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Le monde à venir, c'est le monde de demain, là où Christ établira son royaume sur la terre. Là, ici, il dit, c'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir. C'est à ceux qui l'appellent maintenant et qui vont être fidèles. Et il dit après, or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, l'être humain, pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Et c'est vrai, les êtres humains sont pour un temps au-dessous des anges, parce que les anges sont plus puissants que nous et tout ça. Mais quand nous naîtrons dans la famille de Dieu, nous allons être des êtres divins et non pas des êtres angéliques. Nous allons faire partie de l'autre dimension, si vous voulez, de l'autre règne. Donc, à ce moment-là, les anges seront sous nous. Nous, on a été pour un temps mis en dessous des anges. Et le Christ, dans la chair humaine, est venu dans cette position-là. Et après, il dit, là, il va loin dans le temps. On va beaucoup plus loin. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ça, c'est à venir. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Dieu n'a pas encore mis toutes choses sous nos pieds. On n'a pas encore hérité. On est co-héritier de Christ, comme c'est marqué dans Romains. Mais on n'a pas encore reçu l'héritage, là. Il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, ça, je vous disais, lui, le Fils de l'homme, a été pour un temps abaissé au-dessous des anges. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et maintenant, il est au trône de son Père, il a retrouvé la gloire qu'il avait initialement. OK? Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et le Christ est le prince de notre salut. C'est le plus vieux de la famille. C'est l'aîné de la famille divine. Et il veut partager son héritage avec ses petits frères et ses petites sœurs qui vont naître dans la famille de Dieu au moment du retour de Christ. Et là, il va donner des postes de service envers les autres êtres humains. une ville à un, deux villes à l'autre, cinq villes à l'autre, dix villes à l'autre pour prendre soin des êtres humains, les guérir, les aider, les encourager. Maintenant, un quatrième moyen de développer ce rapprochement avec Dieu ou d'augmenter l'intensité de notre relation avec lui, c'est de nous soumettre totalement et de supporter ou d'imiter Dieu. Le Fils se soumet totalement et supporte et imite son Père. C'est ce que le Christ a fait. Le Christ a supporté le plan de Dieu, il l'a soutenu, il a imité son Père. Et regardez Jean 5, verset 19. Jean, chapitre 5, et le verset 19. Jésus reprit la parole et dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. » Je reviens là-dessus, je l'avais mentionné tantôt. Et là, ce point-là est important aussi. Il s'est soumis totalement à son Père et il a fait ce que son Père lui a dit et il a imité son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Le fait pareillement. Alors, voyez-vous, on ne fait pas les choses à notre façon, après que Dieu nous a appelés, mais à la façon dont lui nous montre. Et dans le but que lui a fixé pour tous les êtres humains dans son grand plan. Après ça, ce n'est plus mes petits buts personnels qui comptent. C'est le grand but de Dieu. Il faut que je m'efface devant ça. J'ai encore des buts personnels humains, normaux, ça c'est correct, c'est bien. Mais le grand but de ma vie, c'est maintenant de préparer le royaume, de soutenir l'œuvre, de faire la volonté de Dieu, de me préparer à le servir éternellement. Verset 19, même chapitre, on vient de lire ça, donc. Et verset 30, regardez une clé importante, un peu plus loin, verset 30. « Je ne puis rien faire de moi-même. » C'est encore le Christ qui parle. Ces paroles-là sont lourdes, dans le sens que ça nous montre que nous, on doit compter absolument sur Dieu. Si le Fils de Dieu disait ça, étant sur la terre en tant qu'être humain, moi, à plus forte raison, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté. » Ça, c'est la clé. « Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et ça, c'est la clé d'une relation réussie avec Dieu, une relation qui porte des fruits, qui nous fait avancer. Est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu dans tous les aspects de ma vie? Vous savez, la soumission totale à Dieu, là, pour nous maintenant, c'est ça qui précède la délégation totale de pouvoir que Dieu va nous donner. Je répète la phrase. Ma soumission totale à Dieu maintenant, et elle n'est pas parfaite encore, mais je dois la perfectionner, la soumission totale des êtres humains que Dieu appelle maintenant va ouvrir la porte au fait que Dieu va déléguer totalement des responsabilités et une grande puissance à ceux qui vont persévérer dans ses voies. Dieu ne donnera pas la puissance à des gens qui risquent de se détourner de lui, de s'éloigner de lui et de faire les choses à leur façon. Il faudra que Dieu soit vraiment certain qu'on veut faire les choses comme il veut qu'elles soient faites et qu'on se soumette à son autorité, à son gouvernement. Vous savez, Dieu donnera jamais la vie éternelle à quelqu'un qu'il n'est pas absolument certain de pouvoir diriger. Quand Dieu va donner la vie éternelle aux faibles êtres humains que nous sommes, c'est parce que nous aurons persévéré et que nous lui aurons démontré dans toutes sortes de circonstances qu'on est prêt à lui appartenir, quel que soit le prix. Après ça, il va pouvoir dire à lui, à elle, je peux donner la vie éternelle, parce que je pourrais lui confier des responsabilités, et il ou elle ne se détournera jamais de moi, comme Satan a fait. Il sera certain de ça, absolument. Écoutez, c'est le même principe que ceux qui ont eu des enfants, à un moment donné, on ne donne pas nos clés de voiture à un enfant de 10 ans. Même s'il dit, papa, j'aimerais ça être capable de conduire la voiture, laisse-moi y aller. Non, on ne laisse pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas prêt à ça. Il n'y a pas la maturité, il n'y a pas la formation, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas l'entraînement. Alors, il faut d'abord procéder par ça, laisser la maturité venir, lui faire des expériences, lui confier de petites responsabilités autres pour voir si on peut suivre à lui. Et graduellement, quand vient l'âge, quand vient la maturité, là, on peut ensuite lui montrer comment conduire et ensuite, graduellement, lui donner les clés de la voiture jusqu'à ce qu'il les prenne totalement tout seul à sa charge. Et on peut se fier qu'il va faire exactement avec la voiture ce qu'on lui a dit de faire. Parce que notre enfant, notre fils ou notre fille a prouvé qu'il se comportait bien et qu'on peut avoir une entière confiance. C'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Alors, nous, on consacre notre vie C'est ça, dans le fond, disons les choses comme elles sont. On consacre notre vie maintenant à faire la volonté d'un autre. Pensez-y. On consacre notre vie maintenant à faire la volonté d'un autre. Ça, là, c'est pas à la mode. Parce que si vous regardez dans la société, surtout maintenant, c'est que la pensée moderne, c'est « faites vos choses à vous, comme vous voulez, quand vous voulez. Si vous pensez quelque chose, vous avez raison. Si vous avez le goût de le faire, faites-le. » Parce qu'il n'y a plus de bien ou de mal dans la société où on vit non plus. Et dès que vous parlez de moralité ou quoi que ce soit, vous êtes mis au rang des accusés. Ça n'existe plus. Alors, voyez-vous, nous, dans ce sens-là, on a pris une voie totalement différente de la voie du monde. La voie qui est de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et on est content de le faire. À mesure qu'on comprend davantage ce que ça veut dire, puis ce que c'est, puis que c'est pour notre bien, et que c'est pour notre bonheur, non pas pour notre bonheur à nous seulement, mais pour le bonheur des autres autour de nous, maintenant, et dans le monde de demain, c'est fantastique. Et là, on est motivé de continuer à faire la volonté d'un autre. Et on peut développer ça de toutes sortes de façons, sur le plan pratique maintenant. Vous qui avez un patron, qui êtes employé, qui avez un patron ou une patronne, vous pouvez appuyer votre patron et votre patronne, faire un bon travail, l'encourager, c'est ça? Imiter, encourager, soutenir, s'approcher d'eux, bien faire les choses, apprendre le gouvernement de Dieu dans les choses du monde, en appliquant les lois de Dieu dans les événements courants de la vie. On peut faire la même chose envers notre père, envers notre mère, qu'on respecte, qu'on encourage tant qu'on peut, qu'on aide au mieux. Ils ont eu tellement soin de nous quand on était petits que nous, on peut avoir tellement soin d'eux alors qu'ils sont âgés, voyez-vous? Et ça, ça fait partie de faire la volonté d'un autre. D'abord, c'est de faire la volonté de notre Père qui est au ciel. Il dit « Honore ton Père et ta Mère ». Si je fais ça, je fais la volonté d'un autre. Et en même temps, je fais la volonté ou j'accomplis le désir de ma mère qui est âgée ou de mon père qui est âgé ou de mes frères qui peuvent avoir besoin ou ainsi de suite. Ou de mes enfants si c'est dans l'autre cas. Même chose entre un époux et une épouse. L'époux doit encourager son épouse, voir ses besoins, voyez-vous, et l'aider, et l'écouter, pas juste lui parler, écouter ses besoins. Essayer de comprendre son point de vue qui n'est pas le vôtre, messieurs, parce que vous ne pensez pas pareil. Si vous pensez que la seule façon de penser, c'est votre façon de penser, vous pensez mal. Parce que vous n'avez pas compris la moitié de l'humanité. Parce que Dieu a voulu que les femmes soient différentes de nous, et mesdames, Dieu a voulu que vos maris soient différents de vous. Ça se complète, mais il faut faire attention, il faut porter attention les uns aux autres. Il ne faut pas prendre avantage les uns des autres. Ça, c'est contraire à la loi de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes. » Aimez vos femmes, je pourrais donner des sermons là-dessus. Ça veut dire prendre le temps de les écouter, demander leurs opinions, puis les écouter quand ils donnent leur opinion. Pas après trois mots, commencer à dire « Oui, mais c'est pas ça qu'il faut que tu penses, parce qu'il faut que tu penses comme moi, je pense. J'ai vu ça autrement. » Là, vous n'avez pas demandé son opinion, vous auriez été mieux de rien dire. Vous auriez été moins mal placé que vous êtes là. Alors, voyez-vous, on doit apprendre ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui viennent naturellement. Certains hommes l'ont plus facilement, d'autres moins. Certaines femmes se soumettent plus facilement à leur mari, d'autres moins, mais elles doivent apprendre. Et je sais par expérience, et je l'ai vu à plusieurs occasions, que les dames qui se soumettent à leur mari, même si le mari en question n'est pas parfait, il n'y en a aucun de parfait, le bénéfice qu'elles en retirent est fantastique. Pourquoi? Parce que Dieu bénit ça. C'est son gouvernement en application. Il ne peut pas ne pas le bénir. Mais vous, et quand la Bible dit que c'est l'homme qui doit diriger le foyer, s'il laisse diriger sa femme, bien, il joue à Adam. Et il y a des problèmes. Tôt ou tard, il doit, oui, prendre conseil, discuter avec son épouse et tout ça, mais à un moment donné, il y a des décisions qui doivent se prendre. Et il y a quelqu'un qui doit être le leader dans toute organisation. Ça ne peut pas être autrement. Mais quand on fait ça, Dieu bénit. Et les fruits de ça sont extraordinaires. Alors, c'est une façon de développer le fait de faire la volonté de Dieu, de soutenir, de supporter ceux qui sont autour de nous, en supportant Dieu, bien sûr. Quand vous y pensez, là, je vous dis que notre vie doit devenir faire la volonté d'un autre. D'abord Dieu, puis ensuite répondre aux besoins autour. Mais quand vous regardez la vie de Christ, ça a été ça. Sa vie, ça a été de faire entièrement la volonté d'un autre. C'est ça, la volonté de son Père. C'est ça qu'il a fait. Quand il était au jardin de Gethsémani, puis qu'il suppliait, puis qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient de son corps devant l'horreur de ce qui s'en venait, il a dit « Éloigne de moi cette coupe si c'est possible. » Puis son père lui a dit non. Il a dit « Bon, mais que ta volonté soit faite et pas la mienne. » Voyez-vous, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est que sa vie, c'était de faire totalement la volonté d'un autre. Et nous, on doit faire la même chose. Qui est-ce qui lui a donné la force à ce moment-là? C'est celui qui était en train de prier. C'est son Père qui a donné la force. Comme nous, c'est Dieu qui nous donne la force. Et par le Christ aussi, Galates 2:20, c'est plus moi qui vis. Quand je suis baptisé, que je reçois l'Esprit de Dieu en moi, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, qui combat pour moi. C'est lui qui est chef de l'armée de l'Éternel. Hein? Des fois, j'y demande dans ce sens-là. Quand j'ai des combats plus difficiles à mener, des fois, je parle à Jésus, puis je dis, écoute, c'est toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel. T'es le plus puissant selon que Dieu veut, là. C'est sûr, il y a juste Dieu qui est plus puissant que toi, mais c'est toi qui es le chef de l'armée de l'Éternel. C'est pas des mots vains. Aide-moi. T'es capable d'intervenir là-dedans. Ou donne-moi la force à moi de faire ce que j'ai à faire. Et à ce moment-là, si on laisse le Christ vivre en nous comme ça, c'est que nous devenons l'expression de la présence de Christ en nous, comme le Christ est devenu l'expression de la présence de son Père en lui. Comprenez-vous? Alors, l'affection de son Père, lui, il l'a manifestée. L'affection que Dieu et Christ manifestent en nous par leur esprit, nous, on la manifeste autour de nous. Et encore là, c'est la chaîne de donner au suivant qui se perpétue. C'est fantastique! Le plan de Dieu est tissé vraiment serré. Vraiment, vraiment serré. Cinquièmement, c'est obéir à la loi. On sait que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Je ne veux pas dire par là, si on tombe par faiblesse ou tout ça, qu'on n'a pas encore réussi à régler quelque chose et qu'il nous arrive de tomber, Dieu nous pardonne, on peut retourner devant son trône de grâce, être pardonné, secouru dans nos besoins, comme la Bible dit. Mais quelqu'un qui ne veut pas changer un point de sa vie, ou qui refuse de le regarder, ou qui veut rester comme il est sur un point de sa vie, la Bible dit clairement que Dieu ne l'écoute pas, même s'il pense qu'il est écouté. Dans Ésaïe 59, je pense qu'il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous aider. C'est vos péchés qui mettent une barrière entre vous et lui, qui l'empêchent de vous écouter. Alors, s'il y a un péché dont je ne veux pas me repentir, que même si on me le montre que tout ça, que je trouve toutes les raisons imaginables pour ne pas faire ce que j'ai à faire, bien, je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu réponde à mes prières. C'est un fait. Jean 8. On est dans Jean 5. Allons dans Jean chapitre 8, s'il vous plaît. Alors, pour s'approcher de Dieu, bien sûr, obéir à sa loi. Jean 8 et le verset 29. Jean 8 et le verset 29. « Celui qui m'a envoyé, c'est le Christ qui parle, est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul. » Ça, vous pouvez prendre ce bout de verset-là, et si vous êtes quelqu'un qui luttez pour vous améliorer, pour continuer à vivre dans la repentance, pour plaire à Dieu, vous pouvez mettre ce verset-là à la banque pour vous, vous n'êtes jamais seul, quelles que soient vos circonstances, même si tout le monde autour de vous vous aurait abandonné, dans vos amis, dans votre famille, qui que ce soit, vous n'êtes pas seul, comme le Christ n'était pas seul, même si les siens l'avaient tous abandonné autour de lui. « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il faut être conscient de devoir garder sa parole puis de continuer à marcher dans la repentance. Et quand on fait ça, on a une assurance devant Dieu. On n'est pas inquiet. On n'a pas peur de Dieu. Et quand on se trompe, qu'on manque notre coup par faiblesse, on n'a pas peur d'aller lui demander pardon parce qu'on sait qu'il va nous pardonner puis qu'il va nous donner l'aide pour continuer le combat. Mais si je ne me repens pas de quelque chose, que je ne veux pas changer un point, là, la Bible parle de ça comme étant une conscience chargée. C'est lourd. Et la personne, à ce moment-là, se sent hypocrite même d'aller parler à Dieu. Même d'aller parler à Dieu. Et là, on se sent loin de Dieu. Mais avec raison, si je ne veux pas changer un point de ma vie. Je ne parle pas encore là de quelqu'un qui est tombé par faiblesse ou qui a pas réussi encore à vaincre telle chose et qui lutte et qui avance là-dedans. Mais si je ne fais pas ce que j'ai à faire pour vraiment changer ou si mon cœur n'est pas à changer, à ce moment-là, je me sens loin de Dieu et avec raison. Parce que là, je considère davantage mon plaisir ou le plat de lentilles que les voies de Dieu. C'est aussi simple que ça. J'aime mieux mon plat de lentilles, comme Ésaü a fait, que mon droit d'aînesse. Ça va jusque-là, si on décrit la situation. Parce que le fait de briser les lois de Dieu sans s'en repentir ou sans s'appliquer à se repentir, ça change notre façon de penser. Veux pas, ça change notre façon de penser. Ça change notre jugement. Ça mêle les priorités. Et ça rend les voies de Dieu de moins en moins compréhensibles. C'est pour ça qu'on dit que le voile peut retomber chez ceux qui ont été appelés, s'ils se détournent de Dieu, s'ils cessent de pratiquer la vérité, s'ils font les choses à leur façon, ils viennent qu'ils comprennent plus ou moins le plan de Dieu. Ils sont certains de comprendre, mais ils ne comprennent pas. Nous, on voit qu'ils ne comprennent pas. Il y a des choses qui échappent complètement. Et c'est pour ça que Dieu a fait aussi, puis on approche des fêtes du printemps, c'est pour ça que Dieu nous a donné la Pâque et les pains sans levain. C'est tellement encourageant. On va bientôt être rendu à cette étape-là. Il faut commencer à y penser. C'est un peu pour ça que je vous donne le message aujourd'hui aussi. Parce que vous n'êtes pas parfait. Puis je ne suis pas parfait. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. Mais c'est comme ça. Alors, mais je veux continuer. Et je sais que vous voulez continuer si votre cœur est vraiment avec Dieu. Alors, il nous donne chaque année la fête des pains sans levain, où on enlève d'abord le levain physique de nos maisons pour nous préparer. Mais en même temps, on regarde qu'est-ce qu'on a à changer encore dans notre vie. Puis on regarde aussi ce qu'on a réussi à changer, pour s'encourager aussi. Parce qu'on n'a pas fait juste des choses qui ont manqué, on a fait des choses qui ont réussi aussi. Alors, il faut s'encourager avec ces choses-là également. Mais Dieu nous donne ça chaque année pour nous encourager, puis nous remettre dans la bonne direction, puis nous approcher encore de Dieu. Parce que les fêtes de Dieu nous aident à vraiment s'approcher de lui. Elles sont absolument nécessaires. Et ce faisant, ces choses-là, on développe le sixième point qui est la confiance totale en Dieu, une confiance totale. Le Christ avait cette confiance totale-là. Il avait la certitude à un degré inégalé. Vous pourrez aller voir dans Jean 11, verset 41, quand le Christ a procédé à une résurrection, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, je vais y aller, Jean 11, on n'est pas tellement loin, Jean 11 et le verset 41. Jean 11, verset 41. C'est la résurrection de Lazare. Ils ôtèrent donc la pierre, parce que le Christ avait dit « ôtez la pierre ». Et Jésus leva les yeux en haut et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». Il a commencé sa prière comme ça, en leur remerciant d'y avoir répondu. Ça, il faut avoir une confiance totale, là. On n'est peut-être pas rendu là, mais on est en chemin. Parce que ça arrive parfois, je sais, j'en parle avec certains, qu'à certains moments donnés, certains vont dire « Je demande à Dieu, je sais qu'il va me l'accorder. » À sa façon, à son temps, mais je sais qu'il va me l'accorder. C'est un peu le même principe, là. C'est sûr qu'on n'est pas encore rendu au niveau du Christ dans ce sens-là, mais on le découvre, on y goûte. Et c'est bon d'étudier la nature pour voir la puissance de Dieu. Je vous ai parlé du corps humain, on peut regarder les planètes, on peut regarder plein de choses dans la création qui nous aident à admirer Dieu. Septièmement, disposition à accepter de souffrir. Il faut être disposé à accepter de souffrir. Le Christ était disposé à accepter de souffrir. Et ça, ça nous approche de Dieu. Pas parce que Dieu aime à nous voir souffrir. Mais écoutez, si Dieu a permis que le prince de notre salut ait appris par les choses qu'il a souffertes, à plus forte raison, nous, êtres humains, qui partons de si loin, qui avons péché alors que le Christ n'avait pas péché, nous devons passer par certaines épreuves, certains tests pour apprendre des choses. Et il nous permet de passer à travers certains tests, certaines épreuves, pas pour nous détruire. Parce qu'il a bien dit, je vous donnerai pas d'épreuves au-delà de ce que vous pouvez supporter. Et avec l'épreuve, je vais vous donner ce qui va avec pour que vous puissiez la traverser. 1 Corinthiens 10, verset 13, je pense. Alors ça, c'est ce que Dieu nous donne comme moyen pour passer à travers de la vie, pour nous rendre à son royaume. Les autres aussi dans le monde souffrent de toutes sortes de façons. Mais nous aussi, on a à souffrir certaines choses, mais il faut passer à travers ces choses-là dans l'optique de Dieu, en comptant sur lui puis en n'arrêtant pas de faire sa volonté. Vous savez, le Christ a eu une coupe à boire qui était très douloureuse et très lourde. Certains ont différentes sortes de coupes à boire, que ce soit la maladie, que ce soit d'autres épreuves, la solitude, que ce soit différents problèmes, que ce soit des problèmes avec la famille ou quoi que ce soit. Mais il faut continuer. Parfois, c'est la coupe qu'on a à boire. Peut-être que Dieu sait qu'à travers ça, vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Demandez-lui chaque fois. Quand une épreuve arrive, demandez-lui de vous montrer. Qu'est-ce que vous avez à apprendre dans ça? Et Dieu va vous le montrer. Ce qu'il veut voir, c'est si vous êtes disposé à apprendre un certain nombre de choses. C'est un point crucial de notre relation avec Dieu. Et quand les épreuves ou les tests arrivent, on a deux possibilités. Ou bien on blâme Dieu, on dit « Dieu, tu avais la puissance d'empêcher ça. Pourquoi tu ne l'as pas empêché? » Alors là, on accuse Dieu. Ou bien on dit à Dieu, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. J'ai confiance en toi. J'ai des problèmes, mais j'ai beaucoup de preuves de ta manifestation d'amour, de miséricorde dans plusieurs éléments de ma vie, puis dans la vie de tes serviteurs que je vois dans ta parole. J'accepte les expériences que tu me donnes. Montre-moi d'apprendre là-dedans ce que moi j'ai à apprendre. Vous savez, il y a plusieurs années, il y a un de mes collègues ministres qui est allé dans un pays de l'Est, qui était la Pologne. Il est allé visiter un membre de l'Église à ce moment-là qui était seul. Et si je ne me trompe pas, qui avait été abandonné par les siens aussi, parce qu'il vivait différemment dans ce pays-là, qui était un pays d'une autre grande religion. Et le ministre a dit, cet homme-là vit dans des conditions effroyables. Parce qu'il vit à l'envers du courant de tout le monde autour de lui. Il était abandonné par les siens. Il doit persévérer dans un pays de grisaille où c'était le gouvernement communiste à l'époque qui était en charge et tout ça. Et ça doit être affreux, ça doit pas être vivable. Mais ça, c'était aux yeux humains que l'homme pensait ça. Parce qu'il a resté surpris de voir la réaction du monsieur en question quand il est venu à bout de le rencontrer. Il a fallu qu'il passe par plusieurs pays pour se rendre là. En tout cas, c'est une longue histoire, mais il s'est rendu finalement rencontrer ce membre de l'Église là-bas qui était seul dans sa communauté, dans sa région, à être membre de l'Église de Dieu. Et ce qu'il a exprimé, cet homme-là, regardez, psaume 27. Psaume 27, ça vaut la peine. Psaume 27. Et le verset 4 et 5. Voyez ce que cet homme-là disait et quel était son désir. Là, on voyait sa priorité. On voyait que cet homme-là s'approchait de Dieu constamment et qu'il marchait avec Dieu et que son but, c'était le royaume et lui de devoir persévérer, quelles que soient les circonstances. Et ce qu'il a dit au ministre, il a cité ce verset-là. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Il était dans un pays communiste, pauvreté, abandon par les autres, pas d'avenir, ou à peu près pas, beaucoup de difficultés de toutes sortes, solitude, rejet par les gens autour. Et le rêve qu'il avait, qui était réel, parce que c'est l'argument qu'il a donné au ministre à ce moment-là. Il a dit, « Je désire ardemment habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, le monde de demain, faire partie de la famille de Dieu, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. » Et on sait que le jour du malheur approche. « Il me protégera au jour du malheur et il me cachera à l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Sur un rocher. Et regardez le verset 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Je me rappelle que le ministre avait été frappé par l'attitude de cet homme solitaire, rejeté, faisant face à toutes sortes de situations difficiles. Pour lui, le but était taillé dans le roc, et c'était ça, son espérance de vie, et il avait mis toute sa vie dans ce sens-là, au service d'un autre, au service de Dieu, pour se préparer aux grandes choses qui viennent. Jacques 4, s'il vous plaît, en terminant. Dieu était avec cet homme-là qui s'appelait Victor. Jacques 4, versets 8 à 10. Soumettez-vous donc à Dieu. Voyez-vous? S'approcher de Dieu, se soumettre à lui, lui faire confiance, se confier à lui pour toutes choses, apprendre à lui obéir par amour. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Parce que dans tout ça, on reste en combat avec l'adversaire qui veut nous détruire. Regardez le verset 8. Approchez-vous de Dieu. C'est de ça que je vous ai parlé aujourd'hui dans le message. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je l'ai souligné en vert parce que c'est une promesse. Moi, les promesses, je les souligne en vert dans ma Bible. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ça veut dire qu'il va prendre soin de vous, il va vous donner la force, il va voir que vous passez à travers. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ça veut dire qu'il faut continuer à se purifier, à se repentir, par exemple. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Reconnaissez vos fautes. Soyez déterminés à changer et Dieu va vous aider. C'est fantastique. C'est ça, s'approcher de Dieu. C'est de se remettre à lui en toutes choses, pour tous les combats qu'on a à faire, pour garder la bonne vision des choses, garder nos bonnes priorités. Alors, continuons de nous approcher de Dieu, de nous purifier et de faire sa volonté. surtout qu'on s'en va vers les fêtes du printemps. Ça nous mettra dans l'esprit d'entrer dans les fêtes du printemps comme jamais auparavant.